question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons des mille et une nuits. Alors, pourquoi parle-t-on de mille et une nuits dans une émission consacrée à l'islam? C'est tout simplement une histoire d'un texte en plusieurs parties dans les contextes islamiques. Nous verrons ses sources, nous verrons son impact et sa réception avec Élodie Bouffard. Élodie Bouffard, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler des mille et une nuits. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes chargée de collection et d'exposition à l'Institut du Monde Arabe et vous avez été commissaire de l'exposition consacrée aux mille et une nuits. D'abord, comment le fait de monter cette exposition vous a pris comme énergie, comme travaux et comme réalisation? Est-ce que c'était bien de faire la collecte de ces textes?
Alors c'était une aventure passionnante qui a pris environ 2 ans et demi. Elle était passionnante d'une part par la nature même des mille et une nuits, également par les rencontres qu'elles ont provoquées, puisqu'on a travaillé avec les plus grands chercheurs de France, du Danemark, d'Allemagne jusqu'au Japon. Donc ça donnait aussi l'étendue des ambitions du projet et de la réalité aujourd'hui des mille et une nuits. Extraordinaire aussi parce que on était devant une matière fantastique qui passait par l'écrit, qui passait aussi par l'oralité. Donc dans une exposition, il y avait aussi beaucoup d'enjeux. Qui était large également, puisque finalement elle parlait de l'Orient, elle parlait de l'Occident, elle parlait aussi de culture arabo-musulmane, du regard qu'on a pu porter sur elle, comment on a pu la réinventer, et comment aujourd'hui ce texte, finalement aussi, appartient à tout le monde et a créé énormément d'images et se métamorphose à chaque fois, et j'espère encore pendant longtemps.
Oui. Alors, vous avez évoqué dans cette collecte des pièces pour l'exposition, même du Japon, vous pensez que ces textes ou ce texte aussi composite et disparate a essaimé aussi loin?
Ah oui, 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 ça a essaimé aussi loin. C'était aussi une grande surprise. Donc moi, j'ai eu la chance pendant ma formation, de travailler justement sur ces mille et une nuits, donc plutôt dans un cadre 18e, on va dire. Et ensuite, grâce à l'exposition, on a commencé à chercher les personnes qui renouvelaient aussi bien dans leur collection que dans la recherche. Tout le travail sur les mille et une nuits, on est arrivé jusqu'à Osaka. Il faut savoir qu'à Osaka, il y a un grand musée qui a, depuis une vingtaine d'années, participé à une grande collecte d'objets et qui a un centre de recherche qui travaille justement sur les thématiques des mille et une nuits. Donc on va dire que l'Extrême-Orient a également été séduit, puisqu'en plus il fait partie des mille et une nuits, parce que c'est pas rare qu'on ait des princesses chinoises et des rois chinois.
Alors, si vous voulez bien, Élodie Bouffard, revenons cette fois-ci aux sources, un peu à la genèse même de ces contes. On parle de civilisation arabo-islamique, mais les sources remontent plutôt à un fond indo-persan.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'aventure du texte, finalement. Alors, il faut savoir que les mille et une nuits a la particularité d'être toujours une enquête en cours. Donc, on ne connaît pas l'auteur. Et on arrive à comprendre l'histoire du texte en se référant à des textes que l'on pense similaires, notamment le Panchatantra qui va devenir le Kalilawa Dimna, les sept vizirs. Et donc ce récit cadre.
Kalilawa Dimna, ce sont ces fables animalières.
Voilà, c'est ça, ces deux chacals en fait qui vont raconter des histoires qui sont plutôt des histoires qui relèvent du miroir des princes, comme on va les appeler au XIIIe siècle, et qui sont là pour donner une éducation, notamment de comment se comporter à la vie de cour, comment ne pas être naïf pour les souverains. Donc la plupart des chercheurs sont complètement d'accord pour fixer l'aventure du texte des mille et une nuits à ce justement Pachantantra ou également les sept vizirs, c'est-à-dire, on va dire, des sources indo-persanes, sûrement indiennes, donc autour du IIe siècle. Un passage dans le mode persan, là on le voit dans le récit cadre des Mille et Une Nuits, hein, Shahriar, Scheherazade, on est
les
à la cour persane.
Hein.
Voilà. Et ensuite, une traduction donc au milieu du 8e siècle à Bagdad, certainement, en arabe. Et après, pour les Mille et Une Nuits, là c'est la différence avec justement ce corpus indo-persan que l'on connaît en langue arabe, c'est que pour les Mille et Une Nuits, aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont d'accord pour dire qu'en fait, on a extrait du texte les fables et les contes d'origine pour tout simplement mettre de la matière de sa propre civilisation. Et donc, on s'en rend compte dès les premières mentions du texte dans un feuillet de 4 pages, hein, où on a la première mention des Mille et Une Nuits, qui ne s'appelle pas encore en tout cas Mille et Une Nuits, où on explique qu'on va écouter des histoires pour sauver des vies toujours, mais qui ont à voir essentiellement avec les histoires des Bédouins d'Arabie et de Syrie. Donc là, on n'est plus du tout dans un héritage indo-persan. Et donc, on a la capacité de ce conte cadre à être une machine à histoire et du coup à s'adapter, en tout cas dans son passage en langue arabe.
Seriez-vous d'accord, Élodie Bouffard, avec ces séquences, ces historiques, si on dit que pour les chercheurs, dans leur investigation, pour fixer un peu le texte, avec ces 3 temps, une période un peu sassanide, 2e, 3e siècle, en gros, et puis une période sous la dynastie abbasside, et puis un peu plus tard, après les Mamelouks, en Égypte, avec une dose un peu populaire dans ces contes. Ou y a-t-il encore une approche historique autre que celle-là ?
Alors c'est vrai que quand on parle des Mille et Une Nuits en général, on classifie avec ces 3 grandes temporalités. Après, le texte a été c'est ouvert aussi énormément, donc il y a eu des ajouts un peu plus tardifs. Mais on est vraiment dans cette matière-là, où on a vraiment cet héritage, on va dire, indo-persan, qui constitue un peu le cadre, certaines fables aussi, hein, puisqu'il y a des histoires un peu courtes. On a aussi des fables animalières dans les Mille et Une Nuits, peu, mais quelques-unes. Et après, on a vraiment le corps, on va dire, qui effectivement sera entre le 9e et 10e siècle. Alors là, vraiment, je prends l'argent en général, où on est vraiment dans cet âge d'or, on est dans Bagdad, où on a justement des personnages récurrents aussi qui reviennent, notamment Harun al-Rachid.
Et son vizir Jafar.
Et on est également après dans une sorte de corpus qu'on qualifie d'égyptien, qui arrive un peu plus tard, effectivement, et qui constitue une autre source de contes un peu plus merveilleux.
Oui. Le tout premier manuscrit aurait été, moi j'utilise le conditionnel sous votre contrôle, décelé ou trouvé par Nabia Abbott, datant du 9e siècle, et il est à l'université de Tübingen.
Alors à Chicago en fait.
Ah, maintenant à Chicago.
Il est à Chicago, donc il a été découvert en 41, c'est Nadia Abbott qui l'étudie, et elle sort en 49 en fait, justement cette découverte. Alors c'est pas un manuscrit, c'est 4 feuillets. Alors en plus, c'est des feuillets, on les a présentés hein, dans l'exposition. C'est des feuillets en plus qui ont été réécrits et réécrits parce qu'on réutilisait, c'est du papier. Donc il faut savoir plus que c'est très intéressant puisque c'est un des plus vieux fragments de textes littéraires sur papier.
Ah oui.
Alors là, on est aussi dans une transmission, vous voyez, Chine, monde arabe, le monde arabe et le papier. Donc on est aussi dans une relation en fait Extrême-Orient-Orient qui est assez intéressante. Bon voilà, passons. On est sur du papier et donc on a des choses un peu réécrites. Donc
une sorte de palimpseste, on a réécrit dessus.
On a réécrit dessus en fait, donc on le réutilise et bon, on lit quand même vraiment bien. Tout simplement ce conte cadre. Donc c'est un fragment, finalement c'est quasiment des notes, hein. C'est pas le texte en lui-même. Donc on voit très bien qu'on a Scheherazade, sa sœur qui lui demande de raconter justement ces histoires surprenantes et étonnantes qui ont attrait à ces fameux, comme je disais tout à l'heure, bédouins d'Arabie et de Syrie, entre autres, naturellement. Et donc en fait, ce premier témoignage textuel, physique, des Mille et Une Nuits qui datent du 9e siècle, témoigne du coup du conte cadre, bien entendu, mais surtout déjà de l'acculturation, de la matière qui a commencé justement à imprégner le texte, qui s'est justement acculturé dans son passage en langue arabe.
Alors, je ne veux pas faire en sorte que la magie de relative au texte disparaisse comme ça, mais il y a certains contes attribués au mille et une nuits qui ne seraient pas. Je pense à Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin et la lampe merveilleuse, Sindbad le marin.
Alors vous enlevez aucune magie, parce que je pense que justement c'est la magie de ce texte. C'est justement la magie de ce texte, c'est d'être ouvert et donc du coup de se réinventer. Donc finalement on le voit, hein, donc dès son passage en langue arabe, il s'est ouvert, il s'est mis au goût finalement de l'auditoire ou des lecteurs. Et donc en fait c'est vrai que dans son passage en langue française, donc là on est au 18e, on est en 1704. Hein,
avec donc, les histoires d'Antoine Galland.
Voilà notre fameux Picard hein, qui en fait par amour pour aussi ce Moyen-Orient qu'il connaît puisqu'il y passe 5 ans, son amour aussi des manuscrits, puisque c'est là où il va en faire une collecte, il va en acheter... pour lui, mais aussi pour la Bibliothèque Royale, va traduire Les Mille et Une Nuits en français. Et c'est vrai que là, ça va être tout simplement un succès détonnant. Et en fait, Antoine Galland, ben, il a un problème. C'est qu'il a dans ses mains donc un manuscrit qui est en 3 volumes, voilà, qui vient d'Alep, exactement. Et en fait, dans ce manuscrit, il y a 35 contes, c'est environ 282 nuits. Et c'est un tel succès qu'on lui demande ces mille et une nuits. Alors en fait, quand il était justement à Constantinople et qu'il a fait ses voyages dans le Proche-Orient notamment, il a acheté un manuscrit en Syrie qui était celui de Sindbad le marin. Donc il était déjà détenteur d'un manuscrit. Il va... tout simplement, comme Scheherazade raconte des histoires nouvelles toutes les nuits, il va profiter de cette opportunité pour introduire Sindbad.
Alors, on rapporte, Élodie, que pour les autres contes, ça lui a été raconté d'une manière orale et c'est lui qui les a fixés par écrit.
Exactement. Donc là, on a des très bons renseignements, notamment par rapport à son journal. Donc, Antoine Galland tenait un journal qui est aujourd'hui à la BNF, qui était aussi dans notre exposition. Je parle beaucoup hein, des œuvres hein, qui étaient chez nous. Et dans lequel, en fait, on a détaillé tous ses rapports avec un certain Anna Diab, donc, qu'il rencontre en 1709. Anna Diab va passer un an en France. Donc, c'est un Syrien d'Alep qui est venu en France en suivant son oncle qui était commerçant. Il a des ambitions universitaires, mais il repartira. Alors, il faut savoir qu'il y a une énorme communauté syrienne en France hein, à cette époque-là, notamment dans le cadre culturel et marchand. Donc, il rencontre Anna Diab et en fait, Anna va lui raconter, on le sait, 12 contes qui sont pour les plus célèbres d'entre eux, Ali Baba et Aladdin et la lampe merveilleuse.
Si vous voulez bien, Élodie, même si je pense que presque tous nos auditeurs connaissent le récit cadre ou le conte cadre, au moins le rappeler comment est né... je ne dirais pas la légende, mais en tout cas l'imaginaire des mille et une nuits.
L'histoire cadre, hein, et donc en fait finalement ce qui explique le grand succès des mille et une nuits, naît tout simplement pour une histoire de vengeance. De vengeance et en même temps d'obsession de ne pas être trompé. Donc on est face à... alors je vais le faire un peu court, donc à Shahriar, hein, qui est roi de Perse, qui a été trompé par sa femme... qu'il se venge, il la tue. Et de désespoir face finalement à cette tromperie, il associe toutes les femmes, le genre humain en fait, à ces incarpades amoureuses qui l'ont blessé. Et donc il décide désormais de ne plus jamais souffrir ni d'amour ni de confiance, notamment par rapport aux femmes. Et donc il va épouser une femme chaque nuit, consommer cet amour, bien sûr, tant qu'à faire, et la mettre à mort au petit matin.
Et qui sont des vierges.
Qui sont sûrement des vierges. Et là, il se trouve qu'une femme, fille de vizir, Scheherazade va justement convaincre son père, grâce à une histoire, de la donner en mariage à Shahriar pour qu'elle puisse, par un stratagème qu'elle a déjà en tête, sauver sa vie, mais aussi sauver le genre, quoi, en tout cas la femme,
du royaume.
Et aller même jusqu'à sauver le royaume.
Oui, il y a un cas aggravant, si je puis dire, dans la décision du roi Shahriar, c'est que son propre frère aussi a été victime de la tromperie de son épouse.
Et oui, alors c'est là on en va dans le détail du contre-cadre, mais effectivement le conte s'ouvre sur Shahzaman, qui est donc son frère. Donc Shahriar se languit de son frère, demande en fait à le voir, donc il envoie son vizir le quémander. Celui-ci accueille la nouvelle avec grande joie et donc part. Selon les versions du texte, il repart car il a oublié une amulette très importante pour le voyage, ou alors tout simplement parce qu'il aime tellement sa femme qu'il veut lui redire une dernière fois au revoir. On choisit, hein. Et donc il revient. Malencontreusement, il revient et il trouve donc sa femme en position d'adultère. Donc lui-même est complètement détruit.
Et même avec un esclave.
Avec un esclave, se venge et part désespéré rejoindre son frère avec cette meurtrissure au fond de lui. Et donc il arrive à la cour de Shahriar, porté déjà par cette histoire et cette blessure. Et c'est lui en plus qui va participer à la découverte des infidélités de la propre femme de Shahriar. Donc on est en face de deux hommes trompés par des reines. Et donc effectivement, on est dans une histoire même de double vengeance qui assoit encore plus finalement la dramaturgie du conte-cadre.
Et le frère, toujours, rien ne le distrayait, rien n'arrivait à apaiser sa blessure. Et alors, finalement, comment s'en sortira Scheherazade?
Scheherazade va tout simplement occuper, alors pas l'entièrement toutes ses nuits, mais une partie de ses nuits à raconter donc ces fameuses histoires étonnantes au roi, et va toujours trouver le moyen de arrêter son histoire au moment où la tension est assez forte pour provoquer l'intérêt et donc que le roi prenne la décision de la maintenir en vie pour pouvoir écouter la suite le lendemain, et cela pendant mille et une nuits.
Si vous me pardonnez cet anglicisme, et les auditeurs aussi, il y a une forme de teasing pour la nuit d'après.
Exactement. Donc, d'ailleurs, beaucoup y voient finalement l'invention du roman feuilleton. En fait, c'est exactement ça. Donc, c'est une invention qui a été produite si tôt et qui, effectivement, travaille sur l'intrigue, la temporalité, les maîtres du suspense. Et avec tout ça, en plus, ce qui est très intéressant, la force de l'oralité. Parce que dans Les Mille et Une Nuits, finalement, c'est l'orateur qui sauve des vies.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons de l'aventure elle-même des Mille et Une Nuits avec Élodie Bouffard, historienne de l'art, chargée de collection et d'exposition à l'Institut du Monde Arabe et commissaire de l'exposition consacrée justement à ces merveilleux contes des Mille et Une Nuits. Élodie Bouffard, le succès retentissant finalement de ces contes, d'abord dans les contextes islamiques, dans l'Empire, et même au-delà.
Oui, dans le monde entier.
Et en Europe, c'est après la traduction d'Antoine Galland, certes, et en Angleterre, ce qu'on appelait les nuits arabes, en réalité, dans un premier temps, les Arabian Nights ou Arabian Tales, les contes arabes aussi. Ça a le même succès.
Exactement. En fait, alors il faut savoir que la traduction de Galland, hein, qui est en français, va tout de suite être traduite dans toutes les langues européennes. À partir de la fin des années 30, elle sera même aux États-Unis. Donc on est dans une matière...
À partir des années 30 du 18e siècle.
Oui, pardon, bien sûr. Pardon, parce que voilà, Antoine Galland en est entre 1704 et 1717, hein, bien entendu, et encore 1735, on a les premières éditions qui vont traverser l'Atlantique. Et donc on a, voilà, on est en danois, en anglais, en allemand, enfin bon, on est traduit dans toutes les langues européennes. Et c'est surtout qu'en plus, on va fabriquer un genre. Donc on est vraiment dans le conte oriental, on retrouve beaucoup aussi justement dans la compilation du Cabinet des Fées. Et donc on a aussi les mille et un jours qui vont arriver, les mille et une fadettes, les mille et un quart d'heure. On a aussi un genre qui se crée au 18e qui est autour justement de ce conte oriental.
Oui, alors cette appellation mille et quelque chose revient à des contes persans aussi où il y avait les mille... mille anecdotes, mille fadettes. On a une idée pourquoi est-ce qu'on les a appelées comme ça et pourquoi on a même rajouté une autre nuit.
Alors, bon, mais là, c'est encore en cadre de réflexion. Hein. Les historiens sont toujours dessus. Donc, effectivement, on sait que donc, les mille et une nuits, quand elles arrivent dans le monde arabe, elles s'appellent les mille contes. Donc, on n'est pas encore à mille et un. On est sur mille contes. Il y a de grandes chances, en fait, que le titre soit... indicateur, en fait, tout simplement du contenu. Donc on est sur des comptes et sûrement il y en a mille. Alors comment se fait-il qu'on arrive à mille et un ? Ben, en fait, on a sûrement encore un inventeur génial. Donc ça, on le doit au monde arabe également. On a cette idée de mille, en fait, c'est complet. Le 1, c'est l'infini. On a l'idée de boucle. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Qu'on retrouve avec aussi cette idée de compte cadre, donc ces comptes qui s'enchassent, donc on pourrait avoir presque aucune fin des histoires en plus qui peuvent se ressembler. Donc on est dans un rythme complètement d'infini, qui est en fait aussi le grand succès des Mille et Une Nuits. Alors le créateur, selon les historiens, souvent on l'a dit qu'on n'avait aucune mention du titre « Mille et une nuits » avant le XIIe siècle. Aujourd'hui, on a Abou Bakr Shraibi qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là et qui énonce avec tout un argumentaire à l'appui que dès le IXe siècle, on était déjà sur cette invention du titre. Et donc, on est vraiment dans le monde arabe abbasside et qu'on est le créateur finalement de ce « Mille et un » à ce moment-là.
Oui, alors le gros se... passe le gros des histoires et des contes sous l'ère abbasside, vous l'avez dit, et sous le règne du calife Haroun al-Rachid, immortalisé lui-même par ces contes-là. Il est contemporain de Charlemagne, Bagdad, une métropole, la capitale d'un empire monde, ai-je dit, des histoires avec Jafar, montre que finalement, c'est cet aspect-là qui va fasciner, qui va donner une idée de l'Orient magique en Occident.
L'Orient magique, pas forcément, je pense. Je crois que ce qui est intéressant dans les Mille et Une Nuits, et je crois que Galland l'a compris. C'est comme je le disais, Galland, c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux de cet Orient et qui veut le présenter à ses lecteurs. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va aussi retravailler le texte pour que ça passe mieux. Hein. Il va enlever la poésie, il va enlever plein de descriptions. Oui. Il va les refaire un peu à sa sauce, c'est sûr. Mais ce qu'il va trouver dans son manuscrit, et je pense que ce qui est dans le manuscrit, notamment dans le manuscrit du XVe siècle, qui va être sa source, en tout cas principale, que nous conservons toujours aujourd'hui. C'est surtout, même si les contes font un lien entre un réel et un imaginaire, une vraie source de compréhension, en fait, de la civilisation arabo-musulmane, notamment à cette période-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces contes, en fait, ils sont dans cet ancrage de Bagdad, on est sur des contes qui parlent beaucoup aussi de la vie réelle des gens. Donc on a des témoignages, parce qu'il y a Harun al-Rachid, bien entendu, mais lui, finalement, il incarne une sorte d'autorité d'âge d'or. Mais on a ces contes qui sont urbains. On a le monde des marchands, on a le monde des portefaix, des barbiers, des coursiers chrétiens. Enfin, on est vraiment dans un univers qui se dessine, qui fait le pont entre une réalité et un imaginaire, puisqu'on est toujours à cheval. Il faut savoir raconter des histoires dans lesquelles l'auditoire et le lecteur se reconnaît pour pouvoir l'amener aussi un peu plus loin, soit dans un imaginaire, soit dans une morale, soit dans un idéal de vie que l'on veut mettre en exergue par le biais des fables et des contes. Mais on a vraiment cette matière-là qui est très intéressante, qui est quasiment civilisationnelle.
Oui. Parmi les chroniqueurs arabes, cette fois-ci, ou arabo-musulmans, on a Massoudi, mm-hmm, et ses Prairies d'or, et un peu plus tard Ibn Nadim dans son index ou son Fihrist, qui serait une sorte de catalogue. On a d'autres rapporteurs que ces deux principaux?
Alors ça, c'est les plus connus, hein. On est donc au Xe siècle. Ensuite, on a des fragments de manuscrits que l'on retrouve. Alors on n'a pas un manuscrit complet, on a des fragments d'histoire qui sont... séparés en nuits. Donc là, on est plutôt sur, on va dire, des manuscrits qui datent du XIIIe siècle. On a aussi le XIIe siècle avec cette fameuse Géniza. Et après, le vrai manuscrit, on va dire, dans lequel on a une matière de conte réellement importante... On parle vraiment là du manuscrit des Mille et Une Nuits, on est au niveau du XVe siècle.
Bien. Vous avez parlé de contes enchâssés et même une sorte de mise en abîme. Ça, c'est un peu le génie attribué à Scheherazade. C'est pour qu'on ait une histoire dans l'histoire. C'est comme ça qu'on peut tenir en haleine l'auditoire d'une manière générale, mais en l'espèce, dans le récit cadre, le roi Shahriyar. C'était ça l'idée.
Oui, alors l'enchâssement, c'est des techniques que l'on retrouve effectivement beaucoup dans le monde indo-persan, dans le cadre justement de ces miroirs des princes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi dans l'histoire de Khurafa. Donc là, on a en plus dans les hadiths une assise également de ce genre de conte 4, puisqu'on a l'histoire de Khurafa qui va être sauvée par également trois personnes qui vont raconter des histoires. Donc on a vraiment ces techniques de l'enchâssement qui sont aussi typiques d'une forme d'histoire, de création, et donc d'enchaînement d'histoire en histoire, de morale en morale, on va dire, et ainsi de suite.
Ah, il y a deux choses là-dessus. D'abord, d'une manière un peu incidente, il y a une réelle tradition de miroir des princes en contexte islamique, et ceux qui de nos jours nous disent que on a toujours gouverné au nom de Dieu et d'une manière drastique, on trouve bien que les injonctions, les conseils, les admonestations ou même certaines directives données dans cette tradition des miroirs des princes au calife ou au prince d'une manière générale remonte soit à Khosroès, soit à Alexandre, soit à tel ou tel roi. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est canonisé ou qui est strictement religieux. Ça, c'est un aspect que vous confirmez, Elodie Bouffard?
Oui. En fait, il faut imaginer tout simplement qu'on a... J'ai parlé de morale tout à l'heure, mais c'est pas de la morale religieuse. C'est plutôt de la morale de savoir-vivre et d'organisation d'une société dont il faut parler. Donc on a vraiment un genre de littérature qui s'apparente pas du tout à une morale religieuse, qui n'est pas du texte religieux, mais qui s'apparente plutôt à du bon fonctionnement, du bon gouvernement, comme on pourrait le dire autrement, et tout simplement de créer des sociétés pour le vivre ensemble, parce qu'en plus c'est souvent des empires quand même très très importants, dans lesquels on a justement des villes-mondes, comme vous le disiez. On le voit même très bien dans Les Mille et Une Nuits, même si Les Mille et Une Nuits ont, comme on l'a dit, ont bougé de registre, on est sorti du miroir des princes, on a quand même tout simplement cet ancrage en fait de témoignage d'une vie en commun, d'organisation, d'une société. Et donc ce n'est plus que pour les princes aujourd'hui, c'est plutôt un peu pour tous les gens qui les lisent et qui s'y intéressent.
Bien. Le second point, c'est cette idée, Élodie Bouffard, de, je reviens, j'en fais pas une fixation, de la magie ou la fascination de l'Orient à cause du merveilleux ou grâce qui sous-tend, grâce à ce merveilleux qui sous-tend les contes. On a bien des tapis volants, on a un génie qui sort d'une lampe, et ça, ça a frappé l'imaginaire des auditeurs, disons, occidentaux.
Alors c'est vrai qu'ils vont faire voler les tapis, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tapis volants dans Les Mille et Nuits. Il y a beaucoup de génies, hein, il y a des lits volants, il y a quand même pas mal de choses. En fait, c'est si on peut le dire comme ça, je pense que c'est l'imaginaire du voyage. Du voyage, on va dire, par bateau, par caravane, mais aussi par objet magique. Certainement. Donc on a ces génies à l'anneau, ces génies à la lampe, ces génies amoureux. Donc on est aussi dans un monde qui est à cheval entre une sorte de réalité et un imaginaire, qui a certainement extrêmement séduit justement l'Occident, puisqu'on est on est dans la lignée en fait finalement des contes de fées, hein, qui sont venus un peu plus tôt.
Bien. Alors ceux qui disent que la tradition arabe, cette fois-ci je ne parle pas d'islam nécessairement, n'a pas connu les périples en mer. Périple, c'est parce qu'il y a une pièce d'eau qu'on traverse. Pourtant, avec Sindbad le marin et les sept contes qui lui sont relatifs, il y a une description des périls en mer, des aventures, des tempêtes en haute mer.
Oui, alors en plus, bon, Sindbad... de la mer, exactement.
Ou Sindbad le marin.
Voilà, alors qu'il n'est pas marin, les commerçants, mais c'est vrai qu'on l'appelle comme ça. Alors là, c'est fantastique parce que c'est un manuscrit par lui-même, hein, donc qui va être intégré par Galland dans le corpus des Mille et Une Nuits. Et effectivement, il raconte tout simplement ce lien aussi entre le monde arabe et la mer. Donc effectivement, on a souvent, ça c'est l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, sûrement quoi, occidental, hein, où on est sur les caravanes ont existé, bien entendu. Mais le rapport, effectivement, avec ces aventures, on va dire, maritimes, est moins facile, alors qu'elle a vraiment existé et qu'elle a été fondamentale dans cette civilisation. Donc on le voit en plus dans Les Mille et Une Nuits, parce que souvent on parle de Bagdad, mais on parle beaucoup de Bassora. Quand même, donc c'est quand même un accès maritime exceptionnel. On est dans un monde effectivement de marchands et donc l'aspect maritime est vraiment mis en avant. Et Sindbad le marin, c'est par excellence les aventures à la découverte de cet océan Indien. On a toute une partie qui est bien sûr imaginaire, mais qui va aussi avec l'idée hein, de l'époque, hein, bien entendu, puisqu'on n'a pas encore tout découvert. Donc on projette des idées de soi et des idées des autres, mais on a aussi une vraie relation de voyage où on a des choses extrêmement identifiées, scientifiquement valables. On peut suivre aussi ces périples. Et c'est vrai que, bon, je vais parler de l'Institut du monde arabe, mais nous avons fait un grand projet d'exposition qui s'appelle « Les Arabes et la mer » pour rendre toute justice aussi à ces civilisations en fait de marins qui ont participé à la construction du monde arabo-islamique.
Oui, vous avez dit arabo-islamique. Alors généralement, arabo renvoie à la langue véhiculaire et donc c'est d'expression arabe. Mmh. Mais la vastitude ou l'étendue du monde islamique est au-delà. Simplement, et le simplement n'est pas une restriction, les villes citées, la toponymie des lieux renvoie davantage à la région plutôt arabe qu'au-delà, puisque vous avez évoqué Bagdad, Bassora, il y a d'autres villes. Y a-t-il, en dehors des villes arabes, des villes qui sont citées dans les contes ?
Alors, des villes, alors là je parle de mémoire, hein, des villes nominalement je ne me souviens pas. Par contre, on sait très bien dans quel espace géographique on se situe et on a beaucoup de liens justement avec l'Inde et la Chine dans les contes des Mille et Une Nuits. On voit quand même ce prisme qui existe entre ces liens entre Orient et Extrême-Orient qui ont été aussi extrêmement forts. Donc on parle souvent de la route de la soie, hein, maritime et terrestre. Et terrestre, oui. Mais il est clair que dans les contes arabes, de langue et d'expression arabe, on va chercher le merveilleux en Inde et en Chine. Donc, sans citer, par la description ou parce qu'on raconte à peu près là où on est passé, on sait vers quelle contrée on va, c'est nommé, et finalement, c'est là aussi où se passent la plupart de nos intrigues.
Oui, en traversant et en passant par le monde iranien. Et les villes tout aussi fascinantes iraniennes. En tout cas, ces contes ont eu dans une forme d'émulation où le génie humain, quel qu'il soit, a été. Ces contes ont suscité d'autres contes occidentaux.
On a tout un système aussi d'invention hein, suite à cette traduction. Donc on le retrouve dans le cabinet des fées, on le retrouve aussi avec Pétrice de la Croix qui va lui-même en fait intégrer des contes plus ou moins issus de manuscrits d'ailleurs, plutôt inventés, qui vont rentrer en fait aussi dans ce cadre des contes orientaux, on va dire, et dans cette histoire d'imaginaire autour de l'Orient. En fait, à partir du XVIIIe siècle, on a un basculement, on avait un orientalisme qui était, on va dire, savant, qui devient un orientalisme plus populaire. Donc c'est vraiment le Mille et Une Nuits qui sont la jonction. Et là, à partir de ce moment-là, on a une invention de l'Orient, notamment du Moyen et Proche-Orient, qui va se retranscrire dans la littérature et qui va aussi évoluer selon les époques.
Alors, vous avez évoqué ces deux chacals, Kalila et Dimna. C'est peut-être bien de le rappeler, mais si vous nous le dites avec votre autorité d'historienne, que les fables de Jean de La Fontaine en ont pris une bonne partie.
Oui, alors en plus, Jean de La Fontaine ne s'en cache pas, hein. Puisque donc tout simplement dans la préface de son deuxième livre, il remercie tout simplement donc le sage Bipé, sage indien, de la qualité notamment de ses fables, et il va tout simplement intégrer 20 contes en fait du Kalila wa Dimna dans justement ces fameuses fables. Donc on en a des très célèbres, hein, donc comme Le pot et la laitière, on a les poissons et le cormoran. Donc, il l'avoue lui-même. Donc, il n'y a rien de caché dans cela.
Oui, Élodie Bouffard, en dehors de la partie occidentale du monde qui s'est imprégnée des Mille et Une Nuits, il va y avoir aussi un genre littéraire sous forme épisodique. Je pense à Tawhidi, l'humaniste, ou un genre littéraire, le adab, qui est par nuit. Tawhidi lui-même, en évoquant ses discussions, ses conversations sur l'amitié avec les vizirs, le dit par nuit. Donc, à un moment donné, on essaye de morceler ou d'échelonner comme ça les histoires pour à la fois gagner du temps ou laisser place aussi à l'imaginaire.
On a un rapport avec la nuit, on le retrouve, il y a un manuscrit aussi qui est d'ailleurs plus tardif que les Mille et Nuits, qui s'appelle Les 101 Nuits, hein, qui existe également. Donc avec toutes ces citations, on se rend compte à quel point la nuit est vraiment ancrée également dans la civilisation arabo-musulmane.
Avec donc, la notion du samar.
Le samar, voilà, ces fameuses discussions en fait du soir. On a aussi ce rapport aussi au découpage du temps. Donc André Michel en parle très bien, notamment donc le temps est découpé grâce aux nuits. On a les rapports avec le calendrier lunaire. Enfin bon, on a quand même un aspect extrêmement fort de lien justement avec ce moment où le soleil se couche et les opportunités d'attention, de convivialité ou d'intimité qu'il peut créer.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du merveilleux, du conte, des Mille et Une Nuits avec l'historienne de l'art qu'est Élodie Bouffard, qui est aussi chargée de collection et d'exposition à l'Institut du Monde Arabe. Et elle est toujours commissaire de l'exposition consacrée aux Mille et Une Nuits. Pour cette dernière partie, Élodie Bouffard, parlons, si vous voulez bien, de la réception des Mille et Une Nuits dans le monde, d'une manière générale, mais aussi dans le monde arabo-islamique. D'abord, il y a l'engouement, ça fait partie, c'est ancré dans la sagesse populaire, on en trouve dans ses contes, mais il se trouve aussi par la suite, alors que ça décrit l'émerveillement, l'art de vivre, l'hédonisme, le raffinement, on trouve chez certains, dans cette crise de l'islamisme radical, qu'il y aurait quelques descriptions jugées par eux plutôt obscènes, alors qu'elles relèvent d'un certain érotisme.
Oui, alors les Mille et Une Nuits sont une matière vivante, donc elles parlent effectivement beaucoup de la vie. Je pense que toutes les époques ont sûrement trouvé à redire pour multiples raisons, toutes les civilisations aussi, puisque, comme je l'ai dit, Antoine Galland lui-même, pour que son auditoire l'aime bien, retravaille un peu le texte. Mais effectivement, là, ce dont on parle, c'est que ces dernières années, il y a eu, notamment dans les années 80 et il y a quelques années, on va dire, un coup de phare sur les Mille et Une Nuits et leur caractère, on va dire, un peu de détournement
subversif.
Voilà. Alors, il faut savoir que dans les Mille et Une Nuits, voilà, c'est une matière vivante qui parle de la vie, qui est extrêmement liée à la notion d'adab, même si c'est pas de la grande littérature. On est quand même dans cet art de vivre, effectivement, mais qui n'a rien d'immoral. Généralement, le généreux gagne ou finit très bien. L'injustice est puni. L'éduqué, en fait, arrive toujours à dépasser les difficultés de la vie. Donc, on est dans une autre perception qui, effectivement, met en avant également, ça c'est certain, un rapport mais tout simplement à la bonne chère, à l'art de vivre, à l'art d'être ensemble, de partage. Et donc, ça se voit dans la thématique des contes, dans la poésie qu'on va chercher, parce qu'il y a énormément, en fait, de références classiques. Donc, c'est aussi un genre dans son ensemble. Donc, les Mille et Une Nuits se nourrit lui-même, quand même, d'un genre qui existe, hein, dans la civilisation arabo-musulmane.
Et les séances de Hariri, les maqamat, il y a tout un genre littéraire dont ce serait inspiré. Alors, on n'a pas qu'un seul auteur, en tout cas les auteurs anonymes des Mille et Une Nuits. Ce qui est, je vous ai interrompu, Élodie Bouffard, pardon. Simplement, je voulais pas perdre le fil de l'idée. C'est que dans la traduction d'Antoine Galland, on a perdu au niveau des assonances des rimes, alors que dans le texte arabe, il y a beaucoup de prosodie, de versification, beaucoup de poésie.
Il y a énormément de poésie. C'est sûr que Antoine Galland va évacuer, on va dire, toutes ces références qui font en plus des Mille et Une Nuits, un texte de compilation également exceptionnel, puisqu'il va chercher des éléments de poésie dans cette littérature classique. On retrouve également les goûts des auditeurs pour ce qui est de leur propre connaissance et de leur propre culture, qui est justement intégrée pour raccrocher perpétuellement aussi les contes des Mille et Nuits à une réalité, une civilisation. Voilà, Antoine Galland va tout simplement les extraire, mais on les retrouve avec joie, justement, dans la traduction de Michael Ebencher.
Élodie Bouffard, vous avez évoqué ces soirées entre commensaux, cette convivialité, carpe diem et surtout carpe noctem, l'art de vivre. Comment expliquez-vous que cet art-là, cette manière de croquer la vie, on l'a plus ou moins perdue dans ces contextes islamiques?
Alors là, c'est une question extrêmement difficile.
C'est-à-dire que, à cause d'une pudibonderie affectée, parce qu'on est saturé de religiosité, on a laissé de côté cette place à l'émerveillement. Pourtant, les contes demeurent dans les familles. Je ne parle pas de maintenant avec les tablettes, le numérique, etc. Mais les veillées où les parents, parfois les grands-parents, racontent des histoires à la jeune génération.
Écoutez, moi, je pense que on est toujours entre une balance, entre un héritage, quoi, on va dire une tradition religieuse et une tradition donc de l'adab. Perpétuellement, on est sur cet équilibre-là.
L'adab, on va dire, en gros, ce sont les humanités.
Et une civilisation n'est pas lisse, l'histoire d'une civilisation n'est pas lisse. Donc il y a des moments sur lesquels l'un prend place à l'autre. Je pense pas que l'un ait tué l'autre ou les fait disparaître. Pas du tout. Je pense qu'ils sont toujours là. Selon les temporalités, l'un prend le dessus de l'autre. Effectivement, alors dans une vue très générale, parce que dans chacun des foyers, on entretient des choses complètement différentes. Hein. On est dans une vision, en tout cas, ce qui donne à voir fait qu'aujourd'hui, on a une moralité religieuse qui peut être assez pesante et prégnante, qui a donné, comme vous l'avez dit, certaines réactions, même par rapport au texte des Mille et une Nuits, donc récemment, notamment mené par des avocats en Égypte. Le ratio, en fait, peut très bien rebalancer, et on est perpétuellement entre les deux, et l'histoire même, la longue histoire en témoigne, il y a des moments qui sont plus conservateurs, d'autres qui sont plus humanistes, et donc les Mille et une Nuits, c'est la version humaniste, en fait. Donc si elle est partagée, qu'elle continue à être partagée, et discutée le soir, et racontée, bah, tant mieux.
Et étonnamment, l'argument captieux de ces avocats, c'était de se prévaloir d'un article de la Constitution appelant à la décence. Et pourtant, la diva Oum Kalsoum chantait bien les Mille et une Nuits.
Oui. Elle est chantée très bien et très longtemps.
Et non seulement il y a la beauté plastique, si je puis dire, du chant lui-même, il y a aussi la teneur des propos. Les Mille et une Nuits continuent à nous fasciner. Assurément. J'ai évoqué tout à l'heure le tournant numérique. Pensez-vous, Élodie Bouffard, que nous autres humains allons perdre si les familles ne se retrouvent pas autour de quelqu'un qui leur raconte, qui leur raconte des contes?
Alors là, c'est le grand enjeu futur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le rapport au texte et surtout à la conversation. Et je pense qu'il y a tout ça dans les Mille et une Nuits. Donc le numérique est très très loin. On a vraiment un texte qui est écrit et en même temps qui a foncièrement une histoire orale. Donc on a l'auteur qui doit trouver l'imagination pour sauver sa vie et en même temps l'orateur qui grâce à ses grandes compétences arrive à faire partager en fait une aventure et aussi à sauver des vies. Donc je trouve que les Mille et une Nuits, c'est vraiment l'histoire d'un livre et en même temps l'histoire de la transmission et de l'oralité. Donc on est très loin de la question du numérique en sachant que c'est peut-être tout simplement une autre façon de transmettre et surtout qu'elle ne devrait pas tuer, en tout cas, la conversation et l'idée de groupe. Après, les Mille et une Nuits sont magiques, elles se réinventent tous les jours, elles se réinventeront en numérique, certainement.
Oui, bon, il y a dans certaines villes encore, dans les médinas, des conteurs et autour d'eux, des enfants assis en demi-cercle et ils leur racontent, peut-être que même le conteur vit de ça. Nous avons perdu le « nous », encore une fois, je le renvoie au genre humain ailleurs à cause de cette modernité, je devrais dire plutôt modernisme avec le suffixe qui étouffe toujours la racine. Pour finir, Élodie Bouffard, y a-t-il une aventure similaire au texte des Mille et Une Nuits pour autre chose ou c'est une aventure unique?
Alors, j'en connais pas de si grande. Parce que je ne connais pas de textes qui se sont réinventés comme ça et qui ont pris d'un peu de toutes les civilisations pour les faire rêver.
Là, on peut dire que le texte est fixé.
Ben, j'espère que non, mais effectivement, il y a eu un travail qui a été mené hein, ces derniers temps et on peut pas dire que le corpus ait beaucoup bougé. Aujourd'hui, si on prend un peu justement au niveau des versions qui existent en français, les traductions donc de Jamal Edith Belcher et d'André Miquel. Et qu'on y associe Galant, on a une sorte de corpus assez large qui environ 300 contes qui ne bouge plus. Après, le texte et l'histoire du texte témoignent de sa capacité d'absorption. Donc, aux nouvelles générations, le droit de rêver.
Oui, le texte fait partie en tout cas du patrimoine de l'humanité. C'est un patrimoine universel. Merci infiniment, Élodie Bouffard. Merci vraiment d'être venue nous faire rêver vous-même.
Merci à vous pour l'invitation.
Et je renvoie nos chers amis auditeurs à aller visiter votre exposition quand elle se renouvellera. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références et les musiques sur le site de franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. Aujourd'hui, c'est Alain Joubert qui était à la prise de son et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.
Je voudrais voir des assassins souriants,